L'année 2025 ouvrait la voie à vos plus grands succès. Excellente année 2025. Banque Atlantique vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat après le revirement de situation au Tchad, puisque l'opposant Succès Masra, qui se déclarait encore récemment vainqueur de la présidentielle de mai dernier et qui a boycotté les législatives de décembre, se dit désormais prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. J'ai confiance dans les institutions républicaines et au président, a-t-il déclaré lors d'un discours mardi soir diffusé sur Facebook, et hier, donc au lendemain de cette allocution, eh bien le nom de Succès Masra a été applaudi lors du congrès du MPS, le parti au pouvoir. Alors êtes-vous surpris par la démarche de Succès Masra? Quelles en seront les conséquences politiques? Vous êtes au Tchad, le sujet ne vous laisse pas indifférent, si j'en crois le nombre incroyable de réactions reçues sur nos réseaux sociaux, Facebook, surtout sur WhatsApp, je croule sous les commentaires. J'en lirai quelques-uns évidemment tout à l'heure pour alimenter la réflexion, mais on vous attend au standard. C'est à vous de parler. 33 9 693 693 70. N'hésitez pas, vous avez la parole dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Alpha. Bonjour Alpha, vous êtes à Dakar.
Bonjour Juan, oui, je suis à Dakar.
Au Sénégal. On vous écoute, quelles sont vos questions?
Bon, j'ai deux questions. En France, une collégienne d'origine burkinabé a été récemment interpellée dans son établissement scolaire pour être ensuite expulsée du territoire. Ma première question, comment les gendarmes ont-ils pu entrer dans le collège et procéder à une telle arrestation alors que des mesures ont été prises dans le passé à ce sujet?
Ouais, une collégienne de 14 ans, sans papier, originaire du Burkina Faso, arrêtée effectivement par des gendarmes au moment de la récréation pour être reconduite à la frontière belge avec sa mère et son petit frère. Les faits se sont déroulés la semaine dernière dans un collège en Moselle, dans le nord-est de la France. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Juan et bonjour Alpha.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service France de RFI. C'est vrai que l'intervention des gendarmes à l'intérieur de ce collège a suscité un tollé.
Oui, tout à fait. Et effectivement, Alpha l'a rappelé, c'est interdit en fait pour les forces de l'ordre de franchir les portes d'un établissement scolaire pour interpeller un élève qui serait en situation irrégulière, d'où le choc des enseignants. Et ça, ce n'est pas nouveau. Les précédents ministres de l'Intérieur, à commencer par Nicolas Sarkozy en 2005, avaient suspendu les arrestations lors de l'année scolaire. On ne touche pas à l'école, on ne touche pas non plus aux activités périscolaires, puisque vous vous souvenez peut-être de l'affaire Leonarda.
Bien sûr.
Cette collégienne avait été arrêtée et expulsé au Kosovo lors d'une sortie scolaire, une affaire qui a fait scandale et divisé l'opinion publique. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'une telle pratique avait été observée, c'était en octobre 2013. Et 10 jours plus tard, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur à l'époque, publiait à son tour une circulaire pour sanctuariser à nouveau l'école.
Il y a eu des réactions au niveau des enseignants, réactions dans les milieux associatifs, au sein de la classe politique. Hier, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, est montée au créneau. Elle a dû rappeler les conditions dans lesquelles les policiers et les gendarmes le droit de pénétrer dans un établissement scolaire.
Oui, effectivement, il y a un texte, qui encadre ces situations-là. Ils ne peuvent intervenir à l'école qu'à l'occasion de projets éducatifs, d'exercices de sécurité, ou bien évidemment en situation d'urgence, s'il y a un danger imminent sur un élève ou un professeur. Alors, pour répondre à votre question, Alpha, pourquoi est-ce qu'ils sont intervenus la semaine dernière pour interpeller cette adolescente? Ça reste en fait incompréhensible. La gendarmerie n'a pas souhaité commenter. Elle renvoie la balle au préfet du département qui aurait donné l'ordre d'arrêter la jeune fille, et la préfecture de son côté renvoie la balle aux gendarmes en disant que elle est là pour décider des expulsions mais pas pour la mettre en œuvre. Ouais. En pratique.
Mais est-ce que le personnel de l'établissement, du collège, avait la possibilité de refuser l'accès aux gendarmes?
Eh bien oui, et donc c'est dans cette optique aussi, on imagine que la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne a écrit à tous les recteurs de France hier pour rappeler les règles, pour rappeler qu'il faut protéger les élèves si le cas se présente. D'ailleurs, le rectorat du département avait voulu rassurer au départ, disant disant que l'intervention s'était passée dans le calme, à l'abri des regards des camarades, que personne n'avait eu le temps, entre guillemets, d'être choqué de voir l'élève partir avec les gendarmes. Mais en réalité, le problème, il n'est pas là. La direction aurait pu s'opposer à la venue des gendarmes. Point, c'est tout. Ils ont d'ailleurs annoncé leur arrivée par téléphone à 9h du matin. Seulement, il semble que le proviseur n'ait pas compris à ce moment-là qu'il s'agissait d'une procédure d'expulsion. De l'avis des syndicats, le contexte actuel aussi et le discours criminalisant les personnes sans papier que l'on entend à plusieurs reprises dans la bouche, notamment du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ont aussi pu participer à la banalisation de ce type de pratique.
Alpha, votre deuxième question.
Oui. Ma deuxième question, pourquoi a-t-elle été reconduite et avec sa famille, en plus,
oui.
À la frontière franco-belge.
Avec sa mère et son petit frère, pourquoi la frontière belge ?
Alors, parce que la préfecture donc, qui a étudié la demande d'asile de la maman en France a estimé que ce n'était pas à la France d'étudier cette demande, mais à la Belgique, là où leurs empreintes digitales ont été prises. Ça, c'est la loi européenne, c'est ce qu'on appelle la procédure Dublin, et ça existe depuis 2013. En fait, pour éviter qu'une personne ne fasse des demandes dans plusieurs pays en Europe, on ne lui permet de solliciter que le pays par lequel elle est entrée en Europe. C'est à ça que sert le fichier des empreintes digitales qui s'appelle Eurodac, d'ailleurs, à tracer la provenance d'une personne. C'est donc ce qui s'est vraisemblablement passé. La maman a déposé une demande d'asile en France. Grâce à ses empreintes, la préfecture se rend compte qu'elle a déjà été enregistrée en Belgique et donc lance le protocole de transfert. Pour cela, il faut un accord des autorités belges et une fois obtenu, on organise l'expulsion. En attendant, cette famille burkinabé, donc cette maman... et ses deux enfants étaient assignés à résidence, ça veut dire qu'ils devaient pointer chaque jour au commissariat, ça fait partie du protocole, hein, c'est ça ou bien la rétention administrative. Et c'est à cette occasion, le matin du mercredi 22 janvier, donc la semaine dernière, que les gendarmes annoncent à la maman qu'ils seront expulsés le jour même. Et comme sa fille est en cours à ce moment-là, eh bien les gendarmes vont la chercher.
Voilà pour les faits. Merci beaucoup Amélie Beaucourt. Alpha, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci pour ce cours magistral.
Magistral, bravo Amélie Beaucourt,
ah
merci.
Oui.
Merci Alpha, bonne journée.
Bonne journée à tous les deux. Merci Alpha, bonne journée à Dakar. Vous nous écoutez sur les 92 FM. Il est 9h17 à Paris, 8h17 en temps universel. D'autres questions à la rédaction. Peggy Mombo, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la Paix sur l'actualité.
Et merci de nous suivre à Kara, dans le nord du Togo.
Exactement.
On vous écoute.
Au Sénégal, le premier ministre Ousmane Sonko souhaite un retour de la responsabilité des visas. À ce propos, j'ai deux questions, Juan.
Allez-y.
Pour quelle raison vouloir restaurer cette mesure controversée ?
Alors, on va déjà répondre à votre première question. Effectivement, vous parlez de réinstauration de cette mesure. C'est vrai qu'en 2013, le Sénégal avait imposé un visa aux ressortissants des pays qui exigeaient un visa aux Sénégalais. Et la mesure avait été effectivement abandonnée 2 ans plus tard. Bonjour Léa Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Peggy.
Correspondante permanente de RFI à Dakar. Nous appliquerons le principe de réciprocité dans la délivrance des visas. Voilà ce que déclarait le mois dernier le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
Oui, Ousmane Sonko hein, qui en fait avance une forme de principe d'égalité quand il annonce vouloir réfléchir à la possibilité de restaurer le visa pour les étrangers qui viendraient au Sénégal. En gros, son argument est de dire que si les Sénégalais doivent faire une demande de visa pour se rendre à l'étranger, pourquoi ne pas exiger la même chose des étrangers qui viendraient au Sénégal ? C'est en ce sens hein, qu'il a annoncé vouloir engager des discussions avec les pays européens et les États-Unis, notamment sur ce principe de réciprocité. En sous-texte, évidemment, Ousmane Sonko tente aussi d'exercer une pression politique sur les pays demandeurs de visa, car il y a de moins en moins de visas pour les Sénégalais, pour les pays européens notamment. C'est un gros sujet ici et un fort sentiment d'injustice pour de nombreux Sénégalais.
Ouais. Et cette mesure va-t-elle réellement être mise en place ?
Bon, rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Il n'y a pas de projet de loi, par exemple, ou de mesure qui serait sur le point d'être adoptée. Quand j'ai posé la question mardi à la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, elle m'a confirmé que le Sénégal examine la possibilité de revoir les conditions dans lesquelles il accorde des visas aux étrangers, notamment, comme je le disais à l'instant, suite aux nombreuses difficultés rencontrées par les Sénégalais pour obtenir des visas pour l'Europe, notamment avec des procédures jugées trop longues, trop incertaines et trop coûteuses, disait la ministre. Mais elle l'a bien dit, c'est une option qui est examinée pour le moment.
Oui, Peggy Mombo, je vous ai coupé la parole. Quelle est votre deuxième question ?
ne risque-t-elle pas d'impacter le tourisme et l'économie du pays, comme lors de sa précédente application ?
Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, Lisa Vesteroff. On se souvient qu'à l'époque, en 2013, ça n'avait pas fait l'unanimité, cette réciprocité des visas.
Oui, et du coup, c'est un peu la même situation parce que clairement, il y a 10 ans, cette mesure avait largement impacté le tourisme. Il y avait une baisse du nombre de touristes venant au Sénégal. C'est la raison pour laquelle le Sénégal était revenu là-dessus. Vous le disiez, c'était donc en 2013, le Sénégal avait instauré ce visa d'entrée pour les voyageurs de tous les pays, à l'exception de ceux de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Mais dès 2015, Dakar était revenu sur cette décision. Et pourtant, à l'époque, les tours opérateurs, notamment, étaient dispensés de visa. Donc, de nouveau, cette annonce faite par Ousmane Sonko inquiète évidemment les acteurs du secteur du tourisme, puisqu'avec 2 millions de touristes qui viennent chaque année au Sénégal, ce secteur est le deuxième pourvoyeur d'emplois du pays. Il contribue quand même à hauteur de 7% au PIB du Sénégal. Exiger des visas pour les touristes, alors que le Sénégal est déjà considéré comme une destination chère, onéreuse, pourrait drastiquement faire baisser la venue de touristes au Sénégal. Une façon de protéger le tourisme et le secteur des affaires, en tout cas des mesures existent, ce serait peut-être d'exonérer de visa les hommes d'affaires, par exemple. Mais comme je le disais à l'instant, on n'en est pas encore là. En dépit de l'annonce d'Ousmane Sonko, les autorités ne semblent pas être sur le point d'appliquer cette mesure dans l'immédiat.
Et vous qui êtes au Sénégal, qu'en pensez-vous ? Faut-il rétablir la réciprocité des visas ? On a envie de vous entendre sur cette question. Pourquoi pas demain dans la Libre Antenne ? N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Peggy Mumbo, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, Val.
Bonne journée à Cara.
Merci.
Et merci de votre fidélité, Cara. On nous écoute sur les 98.3 FM. 33 9 693 693 70. Aboubacar, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu à Aboubacar, vous êtes dans un endroit où il y a un tout petit peu d'écho. On va tendre l'oreille pour bien vous écouter. Vous avez des questions concernant l'avocate tunisienne Sonia Darmani qui est en prison depuis le mois de mai dernier.
Merci beaucoup, merci. En Tunisie, la peine de l'avocate Sonia Darmani a été réduite, mais elle fera quand même 1 an et demi de prison.
Oui.
Quels sont les chefs d'accusation retenus contre l'avocate ? Le pouvoir la considère-t-elle comme une personne gênante ?
Alors, Sonia Darmani, qui, rappelons-le, avait été condamnée en octobre dernier à 2 ans de prison, et sa peine vient effectivement d'être réduite à 1 an et 6 mois en seconde instance. Bonjour, Lilia Blaise.
Bonjour.
Correspondante de RFI à Tunis, Sonia Darmani qui est poursuivie sur la base d'un décret dont on va parler dans un instant, décret très controversé signé par le président Kais Saied. Expliquez-nous d'abord pourquoi est-elle poursuivie ?
Alors, elle est actuellement poursuivie dans le cadre de 5 affaires et purge une peine de prison de 1 an et 6 mois de prison pour des propos sarcastiques envers l'État tunisien lorsqu'elle intervenait sur la gestion migratoire des migrants subsahariens en situation irrégulière dans le pays. Elle avait dit « Mais de quel pays magnifique parle-t-on » pour contredire un chroniqueur qui disait que des migrants voulaient s'installer en Tunisie et non pas juste transiter pour aller en Europe. Elle a été aussi sanctionnée pour avoir dénoncé dans une autre chronique l'existence du racisme envers les migrants subsahariens et les Tunisiens noirs dans le pays. Donc tout cela lui a valu d'être accusée de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles sur la base du décret 54, un décret promulgué en 2022 pour lutter contre la cybercriminalité et les intox, mais qui en fait de fait muselle toute liberté d'expression selon les ONG de défense des droits humains en Tunisie. Elle est aussi poursuivie par l'administration pénitentiaire pour avoir dénoncé les conditions des prisonniers politiques en prison, ainsi que les siennes.
Ouais. Alors Sonia Darmani est avocate, mais elle est aussi chroniqueuse à la radio et à la télévision. Est-elle devenue une personnalité gênante pour le pouvoir ?
Alors c'est compliqué de répondre à cette question tout simplement parce qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser en Tunisie aujourd'hui dans le contexte politique. Certains autres chroniqueurs plus virulents ou plus orientés politiquement sont en liberté, même si beaucoup n'ont plus de visibilité médiatique autre que sur les réseaux sociaux. Les arrestations dites politiques concernent près de 80 personnes qui sont poursuivies sur la base de soupçons de blanchiment d'argent, complot présumé contre la sûreté de l'État ou bien ce fameux décret 54 dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est qu'elles ont mis un coup, ces arrestations, à l'opposition politique et instauré un climat de peur qui pousse beaucoup de personnalités publiques à l'autocensure et de nombreux médias à se mettre au pas. Alors Sonia Dahmeni est un des exemples emblématiques de cette répression, car son arrestation musclée a été filmée en direct sur la chaîne France 24 et qu'elle bénéficie d'un soutien aussi de l'autre côté de la Méditerranée. De nombreux avocats français ont pris position pour elle. Mais il ne faut pas oublier tous les autres prisonniers. Certains attendent leur procès depuis presque 2 ans. J'en profite également pour signaler le cas du journaliste Mohamed Bouraleb, également critique du pouvoir et en prison pour diffamation depuis 1 an, dont l'état de santé se dégrade à vue d'œil, selon le cri d'alerte lancé par son frère cette semaine.
Oui, Mohamed Bouraleb, journaliste à la radio Cap FM. A-t-on répondu à vos questions, Aboubacar ?
Oui, merci beaucoup et bonne journée à vous.
Bon, bonne journée à vous, Aboubacar, et un grand merci à Lilia Blaise, correspondante de RFI. À Tunis, la dernière question ce matin, il nous reste 4 minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Donald. Soyez le bienvenu, Donald.
Bonjour, Juan.
Bonjour, comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Parfait, vous avez des questions sur la politique migratoire de Donald Trump.
Justement. Plus de 4000 migrants ont été expulsés des États-Unis vers le Mexique en l'espace d'une semaine.
Oui.
Comment les autorités mexicaines gèrent-elles ces arrivées massives ?
Alors, 4000 expulsions effectivement en quelques jours. Bonjour Pascal Drouot.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association France-Amérique Latine-Caraïbes. On sait que Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités. Près de 4100 migrants expulsés la semaine dernière vers le Mexique. C'est la présidente mexicaine qui l'a annoncé et non l'administration Trump. C'est vrai que ça peut sembler impressionnant tout de même ce chiffre de 4100, mais la présidente mexicaine le relativise.
En effet, oui, ça paraît impressionnant, surtout quand cette action est menée à quelques jours après la prise de fonction du nouveau président américain. Alors, elle relativise essentiellement parce que, vous savez, chaque année, et notamment l'année dernière, ce furent 190 000 Mexicains qui étaient expulsés, donc en 2024, oui, des États-Unis, c'est-à-dire plus de 17 000 personnes par mois. Donc, si nous regardons froidement, ce qui est toujours difficile quand on parle d'être humain, mais froidement la situation, c'est vrai que 4000 au regard des chiffres que je viens de citer paraissent peu. Ceci étant, c'est un signe très fort, car le retour de ces 4000 Mexicains migrants annonce évidemment une politique déterminée, une politique opérationnelle immédiatement, et qui va donc, qui s'inscrit dans ce projet de Make America Great Again, c'est-à-dire d'en terminer avec des migrants clandestins au Mexique, mais également dans toute l'Amérique latine.
Oui, on l'a vu notamment au Guatemala et en Colombie. Pour répondre à la question, Pascal Drouot, la question de Donald, comment les autorités mexicaines gèrent toutes ces arrivées, est-ce que le Mexique était prêt à accueillir en une semaine 4000 migrants ?
Oui, le Mexique, c'est une puissance régionale. Le Mexique est prêt à accueillir 4000 personnes. On l'a vu d'ailleurs dans les installations qui ont été, dans lesquelles ces personnes ont été établies. Il y a un programme qui s'appelle Mexico Tembras et la présidente a pris en main cet accueil-là. Je dirais que le problème il est quand même beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'est que le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis devant la Chine, que la réalité géographique est celle que nous connaissons, que le Mexique, l'immigrant, il passe par le Mexique, mais ils ne sont pas majoritairement mexicains.
Oui, c'est vrai que dans les 4000, la majorité sont mexicains, mais il y a certains qui sont d'autres pays. Et donc là, effectivement, ça pose un problème pour le Mexique qui va devoir gérer l'afflux et surtout l'accueil de ces migrants qui ne sont pas bien mexicains. Sûr. Pascal Drouot, je suis désolé de vous interrompre. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette première partie. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir pris quelques instants ce matin pour être avec nous, pour répondre à Donald. Je rappelle que vous êtes le président de l'association France-Amérique Latine-Caraïbes. À suivre.